locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sounou Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Agoraphobie, claustrophobie, aquaphobie, tocophobie. Les phobies donc, ces peurs démesurées et irrationnelles d'un objet, d'un animal, d'un phénomène ou d'une situation particulière. C'est l'une des formes pathologiques de l'anxiété, l'un des troubles anxieux les plus courants chez les jeunes. En effet, plus d'une personne sur 10 serait sujette à des phobies plus ou moins importantes. Et parmi ces peurs, il y a celles dont on parle et sourit volontiers, et celles plus nombreuses que l'on garde secrètes. Par pudeur, embarras, honte parfois, car ces angoisses peuvent être incontrôlables. Parfois associées à des croyances ou à des traumatismes, les phobies peuvent monopoliser les pensées jusqu'à devenir paralysantes. Des situations douloureuses à vivre, des peurs qui peuvent être invalidantes au quotidien et avoir des répercussions sur la vie affective, sociale et professionnelle des personnes phobiques. Certains symptômes peuvent alerter, tremblements, accélération du rythme cardiaque, sueur froide, vertige, des signes qu'il ne faut pas négliger, car prendre en charge de façon précoce sa phobie, c'est et prendre enfin le chemin pour s'en sortir. Alors de quoi avons-nous peur à ce point et comment s'en sortir pour ne plus souffrir au quotidien ? Tour d'horizon avec notre invité. Faut-il avoir peur de nos phobies ? Pour en parler en studio avec nous aujourd'hui, Dougou Koulo Alpha, Oumarba Konaré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien à Paris et chargé de cours en langue et société Peul à l'INALCO en France. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, médecin sexologue. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Dougou Koulo Bakonaré, pour commencer, qu'est-ce qu'une phobie et surtout comment la différencier d'une peur ?
Une phobie, sensiblement, lorsqu'on s'intéresse à la racine du mot, c'est une peur. Mais lorsqu'on en parle en tant que catégorie médicale, il s'agit d'une peur qu'on a d'un objet particulier, d'une situation particulière et qui est chronique, qui dure plus de 6 mois et qui peut avoir l'air peu rationnel pour les personnes qui ne sont pas concernées, qui peut avoir l'air d'avoir un caractère en trop. Et aussi, ce qui est important de noter par rapport aux phobies, c'est que les phobies ont un caractère handicapant, invalidant sur la vie sociale, la vie professionnelle, affective, etc. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment en réseau. On a l'impression que ça fait de nous des êtres humains pas comme les autres, avec souvent un sentiment de solitude très grand qui se rajoute à la peur elle-même.
Et ce qui pourrait caractériser la phobie, c'est que le raisonnement habituel disjoncte en fait.
C'est-à-dire qu'une personne qui est phobique peut de manière très rationnelle dire, si on prend l'exemple de la peur des animaux, la peur des chiens, un chien ça fait pas mal, je vois des tas de gens avec des chiens en laisse, mais lorsqu'on est face à la situation, on n'arrive pas à faire cet effort de rationalisation, il y a quelque chose qui fait trop, qui déborde, ou dans ce cas-là, les émotions prennent le dessus, ça peut être en lien avec des événements qui sont passés avant, donc là c'est de l'ordre du trauma, ça peut être lié aussi à des croyances qui sont apprises, ça peut parfois être lié également à des événements ponctuels qui viennent ressurgir d'une manière inattendue.
Et il est donc parfois difficile de savoir à partir de quand, de quel moment, une peur devient une phobie.
Tout à fait. Et ça, c'est valable de manière générale pour beaucoup de pathologies, beaucoup de difficultés psychiques. Quand est-ce qu'on met la limite finalement ? Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est de voir quelle est la plainte que la personne émet et aussi quel est le ressenti de l'entourage de la personne quant à ça.
Et des phobies d'ailleurs qui peuvent aussi devenir obsessionnelles. On parle de TOC, de troubles compulsifs du comportement. De troubles obsessionnels du comportement.
Tout à fait. C'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion de revenir un peu plus là-dessus lors des questions et réponses. Mais les troubles obsessionnels compulsifs sont aussi un mécanisme qui est là pour protéger la personne. Ça peut être des rituels, répéter plusieurs fois une formule religieuse. Ça peut être aussi le fait de se nettoyer toujours les mains pour éviter une peur particulière.
Ce qu'on appelle la misophobie, c'est ça, la crainte des germes, de la saleté.
Ou germaphobie aussi. Et dans ces différents cas-là, on fait face à des comportements qui sont censés corriger, qui sont censés faire face à une peur, aider, mais qui en fait, eux aussi, finissent par être très invalidants.
Et alors, pour bien comprendre physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau?
Alors, il y a les mécanismes de l'anxiété qui sont là lorsqu'on est face à l'objet de la phobie, la situation de la phobie. Donc, les personnes qui sont phobiques ont un cerveau totalement normal, ça il faut quand même vraiment le dire. Ce n'est pas quelque chose qui a des fondements biologiques pour l'instant fondés d'une manière très très nette. C'est vrai que pour tout ce qui est des difficultés mentales, il y a certainement une part d'hérédité, mais c'est quand même aussi très situationnel. Ce sont des choses qui sont apprises, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver suite à un accouchement, ça peut arriver lorsqu'on était enfant, parce qu'il s'est passé un événement dont les autres ne se souviennent pas d'ailleurs. Et pour les phobies, une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est vraiment que lorsqu'on est face à la situation ou à l'objet, la crainte de ce qui va se passer est plus grande que ce que l'objet peut faire lui-même. Et donc, comme on anticipe ce qui peut se passer, l'esprit commence à fonctionner très très vite et donc au niveau physiologique, les battements du cœur s'accélèrent.
On a une décharge d'adrénaline en fait.
Il y a une décharge d'adrénaline, on transpire plus, on a l'impression que c'est vraiment une situation très animale, très liée à l'instinct où on fuit ou alors on se bat. Et donc dans ces moments-là, il y a aussi des contractions au niveau de l'estomac. Donc c'est vraiment une situation aiguë, périlleuse, mais c'est une situation qui ne devrait pas durer normalement. Mais lorsque la phobie dure, lorsque l'exposition dure, alors que c'est quelque chose qui se passe trop souvent, alors là, on peut même avoir des conséquences chroniques sur la santé.
Alors justement, vous parliez de symptômes, tremblements, sueur froide, vertige, nausées, c'est des signes qu'il ne faut pas éviter, qu'il faut vraiment reconnaître et prendre en charge pour aller mieux.
Ce qui est vraiment dur, c'est de savoir qu'il y a un schéma récurrent. C'est de se rendre compte que si on a peur de prendre le métro, si on a peur de prendre le bus ou d'autres transports, c'est de faire un lien entre les vertiges qu'on a et les situations particulières. Et ça a l'air très simple comme ça, mais c'est pas le cas. Beaucoup de personnes consultent en disant « mais je comprends pas ce qui m'arrive, chaque jour je vais au boulot, je me sens pas bien ». Donc il faut vraiment écouter la personne, voir son parcours, essayer de voir s'il y a des récurrences, parce que là aussi il y a quelque chose qui disjoncte un peu, parfois pour tout ce qui est rationnel, parce que c'est quelque chose qui est trop près et on essaie de refouler. On essaie tellement de pas penser à ce qui nous fait peur qu'on voit pas les liens logiques et on voit pas les situations où ça arrive. Et c'est pour ça que, par exemple, ça peut être bien d'en parler avec un psychologue.
Alors, vous parliez justement de conséquences sur la santé. Quels peuvent être les effets d'une phobie si on la laisse s'installer trop longtemps?
Alors, ça dépend vraiment du type de phobie. Ça dépend aussi de la manifestation que ça a sur chacun. Mais une chose qu'on peut mettre en avant, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hypertension, c'est ce qui est de l'ordre des battements de cœur aussi, toutes ces choses qui sont liées vraiment à la régulation naturelle du corps. Ça peut être les troubles du sommeil qui eux-mêmes constituent un mal majeur, ça peut être des troubles de l'appétit aussi, on peut avoir du mal à manger, donc on peut vraiment dépérir, ne pas arriver à dormir et donc avoir toute la vie quotidienne qui est polluée par ça. Mais en plus, lorsque on a des phobies, on peut aussi être dans des situations où on n'arrive pas à s'occuper des personnes dans son entourage. Et donc, on n'arrive pas non plus à assurer les tâches qui sont attendues de nous.
Et pour bien comprendre, est-ce que toutes les phobies s'expliquent?
La plupart des phobies peuvent s'expliquer par des événements qui sont arrivés, mais parfois on ne sait pas tout simplement. Et de manière générale, c'est vrai que beaucoup de personnes
cherchent à comprendre,
se prennent la tête, on passe beaucoup de temps sur Google, on passe beaucoup de temps avec les psys. Souvent on trouve, oui, souvent vraiment on trouve, mais ce n'est pas parce qu'on trouve une origine, ce n'est pas parce qu'on trouve un événement particulier qu'on arrive à tout expliquer. On arrive à dire oui, il y a un lien certain. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait finalement? Et c'est ce qui coince pour beaucoup de gens, parce que une fois de plus, comme ce n'est pas une atteinte du cerveau, ça n'a rien à voir avec l'intelligence des gens ou quoi que ce soit. On n'arrive pas à, c'est pas parce qu'on sait de manière rationnelle qu'on arrive à dépasser. Et c'est là où se pose la question des soins, des prises en charge.
Alors, selon les régions où on se trouve dans le monde, les phobies peuvent être liées à différents phénomènes. Qu'est-ce qu'il en est en Afrique spécifiquement?
Alors, pour parler de l'Afrique, c'est peut-être intéressant que je parle de mon expérience au Mali,
ayant
travaillé en psychiatrie à Bamako. J'ai trouvé que ce qui était vraiment le plus marquant au Mali, c'était souvent les phobies sociales. Et c'est quelque chose à quoi, souvent, de manière assez intuitive, on ne s'attend pas, parce qu'il y a cette image qu'en Afrique, on est toujours avec des gens, on est entouré, etc., etc.
Alors, pour expliquer rapidement, la phobie sociale, c'est une peur irraisonnée. On peut dire des situations où on est exposé au regard des autres.
Oui, et après, ça peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être la peur d'être avec des membres de la famille, ça peut être la peur d'être avec des individus particuliers, ça peut être la peur d'aller au travail, ça peut être la peur de devoir socialiser pour le travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié aux interactions avec autrui. Aujourd'hui, on voit un type de phobie sociale qui est aussi très courant, c'est la phobie du téléphone. Donc, d'avoir des appels téléphoniques, de les recevoir, de devoir interagir avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai trouvé qu'au Mali, c'est quelque chose qui était assez majeur. Et comme ce sont des sociétés qui sont encore assez traditionnelles, où les gens habitent très souvent ensemble, donc c'est d'autant plus handicapant. Et c'est très peu compris du reste de la société, ce qui augmente le sentiment d'isolement et peut conduire à des difficultés d'estime de soi.
Alors tout de suite, je vous propose d'écouter un reportage dans les rues de Bangui, en Centrafrique, où entre croyances et cycles de guerre, les peurs et les phobies ne sont pas une exception. Témoignage tout de suite recueilli par Charlotte Cosset, correspondante en Centrafrique.
Henri fait ses courses en centre-ville, cet homme grand, sec, a très peur des serpents.
J'ai peur du serpent. Le venin du serpent n'est pas bon. J'ai peur. Quand je vois une corde noire, je crois que c'est un serpent. J'ai fait attention, je saute. Parfois, j'ai peur, je tremble en croyant que c'est un serpent, mais c'est ça. Ça me vient immédiatement à la tête. À la maison, j'ai peur. Il y a parfois les mille pattes là, qui passent aussi à la maison. Je crois que c'est le serpent. Et puis, j'ai peur, j'écrase, je tue violemment. Alors, ce n'est pas un serpent. C'est ça. Justement, parfois, je vois un ombre noir qui passe, je crois que c'est le serpent. J'ai peur, je regarde sous le lit, sous les divins, tout ça, je vois, je cherche, mais c'est pas un serpent. Parfois, j'ai la machette que je mets à côté de mon lit, ouais, et même le couteau, ouais, c'est jamais.
Dans la boutique voisine, Bruno fait refaire une serrure.
Pour moi, ce que je, souvent, je peur, c'est, en fait, c'est les chiens. Moi, j'ai trop peur des chiens et je n'aime pas les chiens. Quand je vois le chien, j'ai l'impression qu'il vient vers moi pour me faire du mal, quoi. Quand je vois le chien passe, moi aussi, automatiquement, si c'est pour aller vers à sa direction, moi, je change la direction. Je fais 10 cours, le sens est opposé. Donc, c'est ça. Ou je bloque, il passe d'abord avant que je continue. Si, par exemple, la voie à laquelle qui est plus courte, ou bien qui est raccourcie pour moi, j'étais obligé de, puisque j'ai changé la voie, j'étais obligé de prendre soit une voie qui sera encore très longue que ça, et puis bon, ben, je n'ai pas le choix.
En Centrafrique, les peurs les plus courantes sont les serpents, les chiens, l'orage ou encore la peur de la noyade. Certaines phobies sont aussi liées aux croyances populaires et à la magie. C'est le cas des Talimbi, ces créatures mi-hommes, mi-crocodiles qui viennent tuer les gens. Terence les craint beaucoup.
Ouais, les Talimbi, ça fait peur. Ils vivent dans l'eau. Ils tuent les gens. Donc ça fait peur aussi, quoi.
Ça dit, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Donc voilà, c'est comme ça, les Talimbi. Ça dit, on va vous vendre par un Talimbi. Tu vois, hein? Tu as compris, non? Dans les Talimbi, ils sont là-bas. Et si quelqu'un voulait te vendre, ils te vendent par Talimbi. Et c'est au-delà maintenant. Les Talimbi va vous te chercher pour prendre quoi? C'est ça. Comme je viens de dire que c'est le pouvoir. Donc on ne peut rien faire avec les Talimbi. Pas de solution.
La Centrafrique est en proie à des cycles de conflits depuis plusieurs décennies. Les populations sont témoins et victimes de violences extrêmes qui les marquent profondément. Cette dame âgée garde un souvenir bien ancré de la guerre.
Ils ont égorgé un faka. Moi, j'étais tombée dans un trou et j'ai regardé vraiment toute la scène. Après, il y a une dame enceinte qui fuyait. La femme enceinte a été attrapée, jetée par terre. Ils l'ont égorgée aussi. Ils lui ont ouvert le ventre, ils ont enlevé le bébé. Ils ont aussi égorgé le bébé. J'ai tout vu.
Depuis, elle a du mal à trouver le sommeil.
Quand je dors, je vois l'image du faka qui a été égorgé. Il est par terre. Et dans mes yeux, j'ai toujours son image. Je rêve toujours de ce qui s'est passé ce jour-là. Ces images me reviennent sans arrêt et m'empêchent de dormir. La nuit, je ne dors pas jusqu'au matin.
Lors de la dernière fête nationale, des coups de canon ont été tirés. Dans la foule, plusieurs personnes sont tombées. Flora Samba-Pasquero est psychologue clinicienne, jointe par téléphone au Canada. Elle est fondatrice de l'organisation Obuni, qui travaille à la prise en charge du traumatisme à Bangui.
Mon expérience, au moins plus de 90% de la population est dans le traumatisme. Parce que quand on entend par exemple l'un des derniers événements depuis 1er décembre, c'était un beau défilé. Mais avec des coups de canon, il y en a qui se sont évanouis, qui commençaient à avoir des attaques paniques. Donc ceci montre que même sans incident, les gens sont toujours dans cette éventualité de dire que quelque chose va se passer.
Phobie, peur, traumatisme, la Centrafrique dispose de très peu de structures de santé pour aider les populations à surmonter ces défis du quotidien.
Reportage à Bangui en Centrafrique, signé Charlotte Cosset. Dougoukoulo Bakonaré, est-ce que vous voulez réagir à tout ce qu'on vient d'entendre ?
C'est très intéressant parce que ça me rappelle les choses que j'ai entendues au Mali, bien entendu. Donc, c'est vrai qu'à la part de superstition, et là, il y a une personne qui parlait des animaux, des chiens. Il y a plusieurs échelles. Il y a le fait de pas aimer quelque chose. Bon, ok, j'aime pas les chiens, tout simplement. Il y a le fait d'avoir peur des chiens. Ok, j'ai peur des chiens, je vais changer de rue lorsque je vois un chien. Mais il y a vraiment la phobie où même penser à un chien, parfois, c'est quelque chose qui est trop difficile. Ou voir un chien à la télé, on a l'impression d'avoir la chair de poule, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui nous touche au niveau physiologique. Et donc, une partie peut être basée effectivement sur les traditions. Je me souviens, et ça c'était ici en France, d'une famille malienne dans laquelle la mère était très bouleversée parce que les enfants étaient placés chez une famille d'origine française et elle a reçu une photo de ses enfants à côté de chiens. Elle s'est mise vraiment à pleurer en disant que c'était pas possible et que dans sa culture à elle, on disait que les anges ne pouvaient pas entrer dans une maison dans laquelle il y avait des chiens. Donc dans ce type de situation aussi, il y a des phobies qui sont apprises. Donc petit à petit, on incorpore ça et finalement on n'arrive plus à dire exactement comment ça s'est passé, mais là aussi se pose
la
question.
Des phobies apprises, oui. C'est aussi des phobies qui peuvent être transmises par l'environnement familial, c'est ça.
Absolument. Ça peut être des phobies qui ont l'air irrationnelles, du coup, pas pour les personnes à l'intérieur de la société, mais pour des personnes d'autres sociétés. Et d'ailleurs, ça peut donner lieu à des remarques parfois racistes, en disant « Ah oui, mais les gens de tel pays sont vraiment bizarres, ils osent pas toucher les animaux sauvages alors qu'il y en a tellement chez eux, c'est tellement beau, etc. etc. » C'est vraiment des clichés qui ressortent, alors qu'il y a vraiment un sens traditionnel aussi. Parfois, ça peut être lié à une forme d'écologie. On a un système de totems dans plusieurs endroits en Afrique et à travers le monde où il y a un type d'animal qu'on doit totalement éviter. On doit même fermer les yeux lorsqu'on le voit. On doit totalement le laisser parce qu'il y a des pactes anciens qui existent. Est-ce que dans ces cas-là, on peut vraiment parler de phobie au sens pathologique ? Moi, c'est une question que je trouve très intéressante et je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut vraiment répondre parce que l'accent reste vraiment à être mis sur les plaintes qu'une personne a. Si une personne a peur ou n'aime pas ou sent qu'elle est phobique de quelque chose, si jamais ça l'empêche pas de faire sa vie de manière normale, peu handicapante, finalement, il n'y a pas de problème.
Alors d'autre part, dans ce reportage en Centrafrique, on a entendu parler des traumatismes de guerre qui peuvent effectivement donner lieu à des phobies.
Ouais, c'est vrai que les troubles du stress post-traumatique sont très courants pour les personnes qui sont en zone de guerre, mais ça peut aussi être des choses qui se passent pour des personnes qui ne sont pas impliquées directement. On entend un bruit, on sait que la foudre s'est écrasée quelque part, ça nous a pas touché personnellement, mais on s'imagine ce que les autres personnes ont pu vivre, et donc là, ça fait vraiment irruption. On a ces souvenirs-là, on a des espèces de flashs qui reviennent, et donc il y a des moments déclencheurs. Dès qu'on entend des bruits forts, pas nécessairement les bruits comme ceux de la foudre dans l'astraphobie, mais on entend un son qui retentit, on a l'impression que tout revient d'un coup. Et le mécanisme du traumatisme, c'est vraiment de un, qu'il y a de la résonance, donc quelque chose se passe qui est en miroir avec autre chose qui s'est passé avant, qui était trop difficile.
Dans l'enfance et ou même proche, en fait.
Même proche, oui, effectivement. Et aussi, l'autre principe, c'est qu'il y a des déclencheurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est très prudent dans les médias, notamment lorsqu'on montre des images très dures, on prévient les gens.
De conflit.
Attention, voilà, ces images peuvent heurter parce que simplement ça peut mettre des personnes dans des situations d'anxiété énorme, de dépression. Ça peut faire ressurgir des problématiques très anciennes et donc certains individus peuvent mettre en place des mécanismes d'évitement dans ce sens aussi. Ne plus regarder la télé ou ne plus regarder certaines émissions, etc.
Alors j'imagine que du Mali à la France, vous n'avez pas entendu parler des mêmes phobies. Mmh. Et les techniques de soins ne sont pas forcément les mêmes non plus. Mmh. Vous, en consultation, quelle est votre approche avec vos patients?
Alors en consultation, ce qui m'a semblé très important, bon, peut-être je vais parler des consultations dans les deux pays, parce que dans ma position de psychologue, c'est aussi important de savoir qu'est-ce que je peux proposer comme soins complémentaires aux patients, en sachant qu'il y a ce qu'on fait ensemble, mais il y a aussi ce qui se passe une fois que la consultation est terminée. Il y a souvent l'accès à des thérapeutes comportementalistes. Moi-même, je suis thérapeute plutôt clinicien. Mais donc, je sais que si je discute avec les patients, si on arrive à faire émerger, par les souvenirs, par des plongées dans le passé, les objets qui dérangent ou les situations qui dérangent, après, mes collègues comportementalistes peuvent s'occuper de vraiment faire des exercices pratiques, des exercices même d'exposition aussi progressive pour aider à soigner dans ce sens-là. Donc, moi, je fais de l'investigation. J'essaie aussi de faire des jeux de rôle avec les gens. Les jeux de rôle, ça permet vraiment de se détacher de soi-même, de sortir de son corps. Parfois, j'incarne, moi, le rôle des patients et je leur demande, eux, d'être une autre personne et de voir qu'est-ce qu'ils ont pensé de ma manière de jouer, de ma manière d'avoir peur face à la phobie. Et donc, on a une discussion après et ça leur donne aussi une certaine confiance en eux. Ça leur donne un point de vue différent qui fait que lorsqu'ils sont face à la situation de phobie, là, ils ont appris de nouveaux raisonnements, ils ont appris de nouveaux mécanismes rationnels, ce qui peut donc être continué en thérapie cognitivo-comportementale, comme je le dis. Mais dans des pays où ce n'est pas disponible, comme le Mali, on continue avec ma pratique à moi, mais on peut aussi chercher d'autres modes qui sont assez universels, comme être avec des personnes de confiance qui rassurent systématiquement et divers modes de relaxation.
Alors, si je comprends bien, ce qui est important, c'est de prendre la situation d'un patient dans sa globalité. Mmh. Cependant, la prise en charge psychologique est évidemment pas développée de la même façon partout et l'importance qu'on porte aux phobies non plus. Mmh. Vous restez avec nous, Dougou Koulouba Konaré, tout de suite. Je vous propose de donner la parole aux auditrices et auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé RFI.
Et tout de suite, on rejoint Adja qui est à Labé en Guinée. Bonjour Adja.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Bonjour, on vous écoute.
Voilà, en fait, moi, ma peur, c'est la foule. Le mouvement de foule, je n'ose pas m'approcher quand il y a assez de monde. Et dès que je me retrouve au milieu, j'ai l'impression que mon cœur bat plus vite. Et la seule chose qui me vient en esprit, c'est de partir. Je vais m'enfuir à tout moment. Donc, je transpire beaucoup et j'ai vraiment peur. Je dois partir. Donc aussi, il y a aussi une situation dans laquelle je ne peux pas rester quand je suis dans une pièce restreinte. Là aussi, je me dis que si la porte se ferme tout de suite, comment est-ce que je vais faire? Donc, je ne peux pas sortir et je m'angoisse automatiquement et la peur prend le dessus. Donc, parfois, c'est comme si je vais m'évanouir maintenant. Et ça continue comme ça et je n'ai pas consulté vraiment de médecin. Mais je ne sais pas comment éviter cela parce que l'idée qui est toujours dans ma tête, c'est comment sortir de là. Donc c'est ce qui me tracasse en fait.
Adja, est-ce que vous savez d'où vient cette peur de la foule, de l'enfermement?
Bon, pour la foule, je peux dire que quand j'avais 13 ans, j'ai eu un accident dans un mouvement de foule. Et je suis tombée, ils m'ont piétinée. Bon, sur le coup, j'ai pas pensé que ça pouvait avoir des répercussions. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je grandissais, je me rendais compte que je peux pas me retrouver dans la foule parce qu'à chaque fois, c'est la même situation.
Qui se reproduit.
Oui, la même situation qui peut se reproduire. Donc, je me dis à chaque fois que je vais tomber ou bien il y aura une bagarre tout de suite. Donc, on peut m'atteindre.
Merci beaucoup pour votre question. Dougou Koulouba Konaré, qu'est-ce qu'on peut répondre à Adja?
Il y a une chose qui est très importante et qui vaut peut-être pour toutes les personnes qui vont appeler, c'est qu'il ne faut surtout pas forcer les personnes qui souffrent de phobie à se remettre dans les situations en disant justement « oui, c'est l'épreuve du feu, si elle arrive à faire face, si elle arrive à braver, ça, ce sera fini par magie ». Ça peut faire très mal, parce que l'anxiété de la personne augmente, la personne se sent plus mal et la personne peut avoir encore plus peur de la situation de phobie. Dans le cas de Hadja de la Guinée...
On parle d'agoraphobie.
On parle d'agoraphobie, mais j'ai cru comprendre qu'on parle aussi de claustrophobie pour elle, parce que lorsqu'elle est dans des endroits restreints, elle a aussi le sentiment qu'elle est en danger. Et donc, dans ces différentes phobies qui touchent à l'espace, on essaie toujours de voir comment est-ce qu'on peut s'enfuir, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver de l'aide. Et donc, ce comportement d'essayer de trouver de l'aide, c'est quelque chose aussi qui peut se faire voir. Et donc là, ça fait encore plus mal à la personne qui a la phobie, parce qu'elle se dit, ça y est, les autres vont remarquer que j'ai l'air pas normal, je suis en train de chercher les fenêtres, je suis en train de voir s'il y a des médecins autour. Donc, c'est vraiment une hypervigilance. L'hypervigilance, c'est aussi un mot qui est très important lorsqu'on parle de phobie. C'est la concentration accrue, la concentration aiguë, mais qui prend beaucoup d'énergie physique, beaucoup d'énergie mentale, et qui fait qu'on est tout simplement épuisé. Et ce que je dirais dans le cas de Hadja, c'est que il y a des mécanismes qu'on peut employer en Guinée, par exemple, d'habituation progressive à la phobie. Ça peut être avoir un animal à côté de soi, ça peut être avoir un être humain à côté de soi, quelqu'un qui rassure et qui vraiment va nous permettre de traverser la situation, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un
à qui on peut prendre la main en cas de panique.
On peut prendre la main, quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça c'est une première étape, mais la seconde étape c'est de vraiment mettre à l'intérieur de soi des pensées qui sont bonnes aussi, des pensées qu'on peut transporter avec soi. Il s'agit pas nécessairement de penser comme oui, je suis en foule, mais ça va aller. Ou alors, ah, je suis dans un endroit clos. Il ne s'agit pas de ces pensées rationnelles-là nécessairement. Il s'agit de penser sur des gens qui nous rassurent, sur des gens en qui on a confiance. Ça peut être penser à nos parents, ça peut être penser à quelqu'un qu'on aime bien. Parce que là, c'est ce sentiment doux qui vient faire bouclier, qui vient vraiment faire un cocon face aux sentiments désagréables. Et ce qu'on pourrait aussi dire sur ça, c'est que pour certaines personnes, ayant moi-même effectué ma thèse de doctorat sur le lien entre islam et religion, la figure de Dieu peut aussi être une figure qui, lorsqu'on la rappelle à soi, peut beaucoup aider dans ces moments-là pour ce que Dieu peut symboliser. Et il y a un autre pendant à ça, ce sont les répétitions rituelles, dont on pourra peut-être parler un peu plus tout à l'heure.
Hadja, est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est clair pour vous?
Oui, mais en fait, il y a une autre préoccupation. C'est que le fait que je parle à mes proches que j'ai peur de cela, on me prend comme une personne faible. Donc finalement, je cache un peu ma peur.
Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que l'entourage ne comprend pas toujours. Donc malheureusement, lorsqu'on est dans cette situation, c'est nous qui nous retrouvons dans la situation de devoir faire de la pédagogie, de devoir expliquer. Donc c'est très bien d'avoir appelé ici parce que on peut réfléchir ensemble à des moyens pédagogiques. Si l'entourage ne comprend pas que c'est une phobie, l'entourage peut comprendre d'autres choses. L'entourage peut comprendre ce qui s'est passé avant. L'entourage peut comprendre que c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui fait vraiment du mal. L'entourage peut aussi comprendre que on a besoin d'avoir des prières autour de soi. En plus, on est dans des sociétés héritières vraiment de traditions maraboutiques. Donc, on peut aussi recruter l'entourage dans ce sens-là. Pas dans le sens de dire nécessairement, ah, moi, il y a un problème psychologique. Parce que bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un problème psychologique? C'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas nécessairement, mais leur parler avec des mots que eux ils connaissent. Aidez-moi, accompagnez-moi dans certains moments, faites des prières pour moi, donnez-moi un chapelet, un objet qui est à vous, que je peux tenir avec moi, que je peux mettre autour de mon bras, que je peux mettre autour de mon cou, parce que ça me rappelle vous, ça me rappelle toutes les bonnes pensées, les énergies positives que vous mettez en moi. Mais c'est vrai que dès lors qu'on va avec un diagnostic, et en plus est un diagnostic qui a l'air occidental, c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter pour la société. Donc autant voir aussi si jamais il y a d'autres gens dans la famille qui ont eu des choses similaire. Ça peut être un grand-père qui avait peur de partir au puits, ça peut être une arrière-grand-mère qui n'était pas vraiment comme les autres. Et donc, on sait qu'il y a des mécanismes d'identification dans les familles, il y a les questions d'homonymie aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que dans nos familles, nous sommes les enfants, les petits-enfants de ceux dont on est issus. Donc, c'est normal qu'on ait des caractères comme les leurs. Et donc, c'est normal aussi que nos sociétés s'occupent de nous comme on se serait occupé d'eux.
Merci beaucoup Hadja d'avoir eu le courage de nous appeler et puis d'aller mieux. On vous souhaite une bonne journée à la baie en Guinée et tout de suite on rejoint Nathalie qui nous appelle de Paris en France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
On vous écoute.
Oui, alors voilà, donc je souffre de phobie sociale. Donc j'ai une peur panique de l'autre et particulièrement du groupe.
C'est-à-dire que je ne sais ni communiquer, ni me comporter et encore moins m'affirmer. J'étais une enfant assez réservée, mais je le vivais très bien. Il n'y avait rien d'inquiétant. C'est à l'adolescence que ça a pris une autre tournure. Dès lors que je devais m'exprimer, je rougissais, je bafouillais, je parlais très vite, j'avais une voix inaudible. Bien évidemment, ma gêne était tellement visible qu'on me l'a fait remarquer avec des phrases du genre « Mais t'es toute rouge, parle plus fort, on ne t'entend pas. Ah, mais tu es là, on ne t'avait même pas remarqué. » Donc voilà, cette peur panique et ces remarques répétées, en fait, ça a créé un sentiment de malaise profond et une vive honte. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour apaiser cette angoisse, en fait, c'était de fuir toute interaction. Progressivement, je me suis isolée, je me suis coupée du monde. Ça a retenti sur tous les domaines de ma vie et sur mon moral. Donc, logiquement, ça en est suivi une dépression. Et à ce moment-là, j'ai compris la gravité de ma pathologie et que je devais donc me soigner et consulter. J'ai consulté un thérapeute, donc je lui ai fait part de mes difficultés quotidiennes à m'exprimer. Et j'ai suivi deux thérapies comportementales et cognitives. Donc, c'est une mise en pratique répétée des situations anxiogènes. Et moi-même, au quotidien, je me fais violence et je me confronte aux situations que j'ai pu fuir. Aujourd'hui, j'ai apprivoisé, si je puis dire, la phobie sociale. Je vis assez correctement, mais la gêne reste très présente. Et la question que je voudrais poser, c'était de savoir quel autre moyen, méthode je peux mettre en œuvre pour retrouver une certaine aisance orale et comportementale.
Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage, c'était vraiment très clair. Merci de nous avoir appelé et encore bravo. Dougou Koulouba Konaré, je me tourne vers vous. Comment Nathalie peut aller encore mieux? Est-ce qu'il existe d'autres moyens que les thérapies qu'elle a suivies?
Oui, absolument. Je trouve que c'était très important qu'elle ait eu le courage de faire ces thérapies-là. Très souvent, lorsqu'on a des phobies, on essaie de trouver des moyens par soi-même, on n'y arrive pas vraiment. Et il y a un épisode traumatique, pas l'épisode qui crée la phobie, mais un épisode qui nous fait réaliser aussi que ça va vraiment pas, il faut qu'on se prenne en main. Ça peut être parce qu'on se retrouve très déprimé, ça peut être parce que on perd un job, parce qu'on n'a pas voulu s'exposer à une situation particulière. Ça peut être l'entourage qui nous laisse tomber parce que il trouve qu'on devient invivable. Donc, dans ces cas-là, on réalise que on est vraiment en train de souffrir. Et donc, c'est vraiment parfait à ces moments-là de pouvoir chercher de l'aide à travers des thérapeutes, à travers des amis qui peuvent comprendre.
Et c'est important de comprendre que, qu'il s'agit d'une phobie et non pas d'un trait de caractère.
C'est ça. Donc, vraiment, c'est une phobie. Et comme elle l'a expliqué elle-même à juste titre, je pense que ça a beaucoup joué sur son estime de soi. Et l'adolescence, c'est un moment vraiment qui est un tournant. C'est un moment charnière et on sait comment les adolescents sont. Ça peut être très, très difficile. Et donc, de se construire en tant qu'adulte, avec cette idée de soi-même, ça contribue résolument à s'isoler. Après, en termes de traitement, ce qui peut être bien aussi, c'est d'allier une approche basée aussi sur les médicaments à l'approche thérapeutique classique. C'est-à-dire que comme les symptômes de rougissement, tous ces symptômes somatiques sont là, ce sont des symptômes qui, eux, participent au cercle vicieux de la phobie. Et ce sont des mécanismes parfois qu'on ne peut pas contrôler du tout parce que c'est très fort. Mais parfois, ça peut aider d'avoir des médicaments pour l'anxiété qui permettent de réduire un peu le niveau de manifestation, des manifestations physiques. Et une fois que ce niveau-là est légèrement baissé, on se sent plus en confiance dans son corps, on est vraiment pas juste le passager dans son corps, on est vraiment le pilote. Donc on arrive à très vite mettre en place ces mécanismes de répétition, tout ce qu'on a appris avec les thérapeutes cognitifs ou comportementaux notamment, en sachant qu'avec ces thérapeutes-là, il y a une confrontation avec la phobie, mais c'est une confrontation qui se fait de manière bienveillante, qui se fait de manière progressive, de manière accompagnée. Mais c'est vrai qu'après, lorsqu'on se retrouve hors de la thérapie, par soi-même, il va pas de soi qu'on arrive à tout faire parfaitement comme on l'a appris. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des petites astuces comme ça, d'avoir des petits jokers qu'on peut sortir de temps en temps, bien sûr sous la supervision d'un médecin, de quelqu'un qui explique bien comment prendre les médicaments.
Nathalie, est-ce qu'on a répondu à vos interrogations? Est-ce que vous vous sentez capable de piloter votre phobie?
Oui, parfaitement, oui. C'est vrai que je pense que la prise de médicaments pourra aussi grandement m'aider. Et les différentes...
La relaxation, peut-être?
Oui, la relaxation aussi, c'est très important. Aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de techniques de relaxation qui se développent. Il y a l'hypnose. L'hypnose, ça nous permet de visualiser. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas qu'on nous met dans un état où on nous manipule, on fait ce qu'on veut avec nous. C'est un peu comme la méditation, mais guidée. On essaie de voir qu'est-ce qui nous vient en tête. Ça peut vraiment faire de la régression aussi parfois à des anciens états qu'on a connus dans la vie. Et donc, ça nous permet de nous confronter aux moments qui ont été difficiles et dans ces moments-là, de défaire les éléments traumatiques et de pouvoir agir sur le présent. Donc, c'est un peu comme un voyage dans le temps. Et puis, une autre chose qui peut être très utile, c'est aussi lorsqu'on arrive à faire des activités physiques qui nous permettent de mieux contrôler notre corps. Donc, en faisant du sport, en faisant du yoga, etc., on arrive à jouer sur la respiration, on arrive à jouer sur la transpiration et d'autres mécanismes de ce type aussi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une perspective ouverte et essayer différentes méthodes, les combiner. Et c'est très bien déjà d'avoir vu des thérapeutes parce que si on sait que ça marche, alors maintenant le tout c'est de compléter.
Merci beaucoup Nathalie pour votre appel. On vous souhaite plein de courage et une belle journée à Paris. Et on va passer le micro de Priorité Santé à Précieux qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour.
Oui, bonjour Priorité Santé.
On vous écoute.
Oui, mon problème réside sur les avions. J'ai la phobie des avions, sans peut dire. Le problème a commencé il y a 5-6 ans en arrière. Disons, il fut un temps où on avait beaucoup, on suivait à la télé des crashs d'avions, patati patata. Donc, à force de suivre ces émissions où à chaque fois il y avait un crash, j'ai commencé à avoir peur de prendre les avions. Mais mon problème, en fait, j'aime voyager et je suis contrainte à chaque fois de partir. Mais je vous assure que quand je dois normalement voyager, ça veut dire je prévois mon voyage dans 6 mois. Et alors, quand je commence la procédure du voyage, je commence à avoir peur. Je panique, en fait. J'ai le cœur qui chauffe, j'ai la peau qui chauffe. Rien qu'à y penser, j'ai peur. Et disons que l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, je devais voyager le jour même. Ce jour, j'ai dû annuler mon voyage parce que simplement j'avais peur. Et ce que je peux dire, c'est que le plus long voyage que j'ai fait, il a duré 11 heures et il y a 3 mois de cela, je vous assure que j'avais peur. Ma peau, j'avais très mal en fait, j'avais une sensation au niveau de la peau, je ne sais pas si c'était des frissons, mais ça chauffait, j'ai le corps qui chauffe, j'ai immensément peur. Et puis dans l'avion, je n'ai pas les pieds sur la moquette, j'ai des pieds suspendus parce que j'ai très peur. Déjà dans l'avion, je ne m'assois pas au niveau des hublots parce que j'ai peur de regarder, je m'assois au niveau des allées.
Et donc, Précieux, ce que vous voulez savoir, en fait, si je comprends bien, c'est si ça se soigne, parce que vous aimez vraiment voyager, de ce que je comprends.
Oui, j'aime bien voyager, j'aime les voyages, mais j'ai peur, rien qu'à penser que je dois prendre l'avion, j'ai peur.
Merci beaucoup pour votre question, Doukoulo Bakonare. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Précieux?
C'est un type de phobie qui est très courant, oui. Qui est vraiment très courant. En plus, c'est un type de phobie qui, si on réfléchit bien... C'est vrai que c'est assez rationnel. On est en l'air, on est dans quelque chose qui a l'air plus ou moins fragile. C'est la magie de la technologie, mais on n'arrive pas toujours à le comprendre. Donc, c'est une situation qui, objectivement, peut faire peur. Mais ce qu'il faut savoir sur ces phobies-là, c'est que en réalité, il peut y avoir une concentration de plusieurs phobies. Donc, il y a le fait d'être dans l'avion, dans cette situation où on est exposé, mais aussi le fait qu'on peut voir des éclairs à certains moments. Il y a le fait que l'avion est un endroit qui est étroit, donc il peut y avoir des enjeux de claustrophobie aussi. Il y a aussi le fait qu'on est entouré de beaucoup de gens, qu'il y a aussi des microbes, etc. Et puis, des études scientifiques ont montré récemment que lorsqu'on est dans l'avion, à cause justement de l'enfermement, à cause de la pression de l'air, etc., on pleure beaucoup plus facilement. Donc, les émotions sont élevées, les émotions sont vraiment à un pic. Donc, tout ça contribue à faire un mécanisme toxique avec des bases somatiques, des bases physiques et des bases psychiques. Pour arriver à répondre à ça, Beaucoup de personnes s'alcoolisent en prenant l'avion. Beaucoup de personnes prennent des cachets. Donc là, je fais une mise en garde, une recommandation un peu par rapport à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure quant aux médicaments. Pareil, vraiment voir avec un médecin et prendre des médicaments dans ce cas-là, très facilement, on peut faire des overdoses ou alors on peut avoir des réactions qui gâchent totalement le voyage, qui gâchent la santé aussi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines compagnies réchignent à donner de l'alcool à volonté aux gens. Mais ça ne résout pas pour autant le problème de phobie qui se pose. Et dans ces cas-là, la visualisation, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Donc, ça peut se faire avec un psychologue clinicien comme moi. Ça peut se faire avec des sophrologues, des personnes qui aident à la relaxation. Revivre ces situations-là, fermer les yeux, voir à quoi on pense exactement. Est-ce qu'on a peur du crash ? Est-ce qu'on a peur de la mort ? Il y a des gens qui ont peur de l'avion et qui vous disent, pourtant, hors cette situation, moi, j'ai pas peur de la mort. Il y a des gens qui vont dire non, il y a plein de situations durant lesquelles je pense à la mort, mais c'est vraiment ce cas particulier de l'avion. Qu'est-ce que ça fait cette sensation d'être en l'air, cette sensation qui devrait être une sensation de liberté, mais qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher ? Et donc, dans ce cas-là...
On maîtrise pas tout, en fait.
On ne maîtrise pas tout, même on ne maîtrise rien. On ne sait pas où on va, il y a le vent là, on n'arrive pas à lire ce qui se passe sur le regard du personnel de cabine. On ne sait pas si les crispations de visage, c'est parce que eux aussi, ils ont peur. On ne sait pas si, au contraire, ils essaient de nous rassurer. Donc, dans ce cas précis, il faut vraiment passer par l'habituation. Il faut aussi voyager souvent avec des gens dont on se sent proche, des gens qui peuvent nous rassurer. C'est un peu le même mécanisme qu'avoir des objets avec soi, qu'avoir des animaux avec soi. Les animaux aussi, c'est quelque chose qui est très courant, surtout dans les pays occidentaux.
Des repères, en fait.
Ouais, et souvent, ça fait vraiment ça fait des conflits même dans les avions. Où les animaux sont interdits normalement, mais vous avez des personnes qui voyagent avec des labradors, des personnes qui voyagent avec des pans, des animaux qui sont quand même impressionnants. Mais la présence de l'animal, sentir ses battements de cœur, passer la main dans le poil, etc. Tout ça, ça aide à rassurer aussi parce qu'on se concentre sur les signes physiologiques d'une autre personne. Et c'est comme avoir des bébés avec soi, on a l'impression que c'est magique. Mais aussi parce que ça a une valeur psychosomatique.
Merci beaucoup, précieux, et merci à toutes et à tous. On n'a pas pu passer tous vos messages à l'antenne, je suis désolée, ils étaient nombreux. Merci en tout cas de nous avoir rappelés. Merci à vous, Dougoukoulo Bakonaré, pour cet échange, vos éclairages et vos conseils précieux. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien à Paris et chargé de cours en langue et société peu, la LINALCO, en France. Et tout de suite, la chronique du docteur Catherine Solano. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Docteur Solano, vous allez nous parler de ce que les sexologues appellent le vaginisme. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, c'est une situation où un couple ne parvient pas à réaliser une pénétration vaginale pendant une relation sexuelle. Donc, l'homme n'arrive pas à introduire son pénis dans le vagin. Et s'ils essayent vraiment, si l'homme force, ça fait très mal à la femme et c'est même impossible d'y arriver. Et ça existe, bien sûr, même chez des couples qui peuvent être mariés depuis assez longtemps, depuis plusieurs années.
Alors, une telle situation où le couple ne peut pas avoir de relations sexuelles, cela peut pas durer si longtemps que ça.
Mais si, justement, moi j'ai vu des couples mariés depuis plus de 10 ans et qui n'avaient jamais réussi à avoir un rapport sexuel avec une pénétration. Donc, où il faudrait pas faire une erreur, c'est penser que ces couples n'ont pas du tout de sexualité. En fait, ils ont une sexualité, ils ont une vie sexuelle, mais sans pénétration. Et c'est quand même parfois une vie sexuelle assez épanouie.
Alors, pourquoi la pénétration est-elle impossible ?
Alors, parfois, au début, c'est que l'hymen de la jeune femme est très rigide, donc il est difficile à déchirer. Bon, dans ces cas-là, on fait une petite intervention, bien sûr sous anesthésie, parce que ça ferait mal. Mais le plus souvent, le vaginisme primaire, c'est-à-dire depuis le début de la vie sexuelle, c'est une femme qui a une peur de la pénétration, tout simplement.
Et pourquoi une telle peur de la pénétration, alors ?
Alors, il y a une peur, on ne sait pas trop d'où vient la peur, enfin, il y a plusieurs explications, mais ce qui se passe, c'est que c'est une contraction involontaire des muscles qui sont autour du vagin. C'est donc un réflexe qui n'est pas du tout contrôlable. La femme peut pas se dire « Ah, c'est la peur qui serre mes muscles, donc je les détends, ça marche pas ». Donc, ça ferme totalement le vagin et ça rend la pénétration complètement impossible. Et le premier médecin, il y a très longtemps, qui avait décrit ça, avait dit « C'est exactement le même réflexe que l'œil qui se ferme quand un moucheron arrive, ça peut pas se contrôler. »
Si cette femme réussissait à se détendre et que son partenaire force un peu, il devrait finir par arriver à avoir un rapport sexuel complet ?
Oui et non. C'est-à-dire que si la femme arrivait à se détendre, effectivement, enfin à se détendre, à détendre les muscles de son vagin, eh bien la pénétration serait possible. Mais par contre, si son partenaire force, c'est-à-dire qu'il pousse avec son pénis pour essayer de rentrer, ça va lui faire très mal et ça n'aide pas du tout parce que ça marche pas. Au contraire, c'est encore pire, ça va se serrer encore plus fort parce que c'est comme si le vagin se disait ben, « j'ai raison d'avoir peur, on veut me faire du mal » et donc il se serre encore plus fort. Et d'ailleurs, les femmes qui ont un vaginisme, souvent, quand elles veulent pas aller chez le gynécologue parce qu'elles ne veulent pas avoir d'examen gynécologique, et puis souvent elles ne me mettent pas de tampon non plus.
Et qu'en est-il du mari? On a du mal à imaginer un homme marié qui reste 10 ans sans relation sexuelle.
Oui, exactement, ça paraît étonnant, ça va beaucoup à l'encontre de l'idée que certaines personnes ont des hommes, mais pourtant c'est vrai, moi j'en rencontre très souvent, et en général les femmes disent « mon mari est très compréhensif et très patient ». Tout simplement parce que il comprend qu'elle a un blocage. Alors évidemment, en général, il l'incite à consulter, il lui dit « écoute, fais quelque chose, j'ai envie que ça marche ». Mais souvent, ce qui fait le déclic dans ces couples, c'est le désir d'enfant. Ils se disent « tant qu'on n'a pas de pénétration, ça va être très difficile de faire un bébé ». Donc ça les motive tous les deux et ils viennent consulter pour ça.
Est-ce que ce genre de cas est fréquent? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est une situation un peu extrême.
Oui, c'est vrai, mais pourtant c'est fréquent. On estime qu'il y a 2 à 3 % des couples qui sont confrontés à ce problème. Alors c'est pas beaucoup, mais ça finit par faire beaucoup de monde quand même.
Alors à quoi est dû ce problème de réflexe anormal? Pourquoi les muscles du vagin se contractent si fort?
Alors la plupart du temps, leur zone intime, elle est normale. Donc c'est un réflexe qui vient plutôt du mental ou du psychologique. Donc il peut y avoir l'éducation. Quand on explique à une petite fille que la sexualité c'est sale, que ça fait mal d'avoir des rapports sexuels, ça l'aide pas. Ça peut être une femme qui a été choquée quand elle était petite par des images pornographiques ou qui ont vu des choses qui les ont choquées, qui ont subi un traumatisme au niveau du vagin aussi ou de la zone intime.
Alors quelle sorte de traumatisme ?
Alors ça peut être, moi ce que je vois c'est un geste médical. Par exemple, j'avais une jeune patiente qui avait subi des sondages urinaires quand elle avait 5 ans. On la tenait par les deux bras et les deux jambes et puis elle pleurait, elle criait et on lui a introduit une sonde. Vous voyez, ça c'est très agressif. Ça peut être une excision. Je vois assez régulièrement des femmes excisées qui ont un vaginisme. Ça peut être une maman qui force sa fille à mettre un tampon la première fois elle a ses règles. C'est aussi agressif. Ça peut être un accident qui abîme la zone sexuelle ou même une agression sexuelle. Donc il y a beaucoup de causes différentes. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner ça?
Donc on commence par apprendre, par expliquer à cette jeune femme ce qui se passe. On lui apprend à serrer et desserrer volontairement les muscles autour de son vagin, donc de son périnée, pour qu'elle en prenne le contrôle volontairement. Bien sûr, en dehors d'un rapport sexuel, là, elle s'entraîne à faire ça toute seule ou avec un kiné ou avec un médecin sexologue, par exemple. Et puis on lui explique l'anatomie de son sexe, parce que souvent, je pense à une patiente, elle me disait, j'ai l'impression que c'est un mur ou comme la joue, qu'on peut pas rentrer dedans, il n'y a pas d'orifice. Ensuite, on peut lui apprendre à rentrer progressivement un doigt dans son vagin sans forcer, très très doucement, millimètre par millimètre en plusieurs fois. Et puis on fait un travail psychologique pour apprivoiser la peur que ressent son corps.
Et finalement, est-ce que ça se soigne bien?
Alors oui, c'est un domaine où on a beaucoup de bons résultats. Et moi, je reçois régulièrement des faire-part de naissance de couples qui me font passer le petit message « ça a marché, maintenant ça va bien ».
Catherine, un dernier conseil pour les couples qui ont ce type de problème?
Voilà, alors ce que je voudrais dire, si vraiment vous êtes confronté à ce problème de vaginisme ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, il faut vraiment pas en avoir honte parce que c'est quelque chose de involontaire. On n'y peut rien, il faut se faire aider. Alors déjà, Internet a aidé beaucoup de couples parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disaient « j'ai trop honte de consulter, je dois être la seule femme au monde qui peut pas faire l'amour ». Eh ben pas du tout, on voit très souvent ce problème et quand une femme s'aperçoit que son gynécologue lui dit « vous n'êtes pas la seule, on va vous aider », eh bien on est très soulagé, on trouve des solutions.
Merci docteur Catherine Solano, je rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Setoussa Maquet, Ophélie Lassen, Mostefa Mostefaoui et Didier Bleu à la réalisation. Demain, nous parlerons de l'hypertension dans Priorité Santé. On vous donne rendez-vous à 9h10 temps universel et d'ici là, passez une belle journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.